Laudetur Jesus Christus.
Toujours pas d'accord sur un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. À l'issue des pourparlers d'Istanbul hier, les deux pays ont convenu d'échanger tous les prisonniers de guerre grièvement blessés ou âgés de moins de 25 ans. Les détails en début de ce journal. La RDC s'enfonce dans la crise politique. L'opposant Martin Fayoulou interpelle l'ancien président Joseph Kabila sur sa présence à Goma et met en garde contre la balkanisation du pays. On fait le point avec notre correspondant. Dans ce journal, nous irons au Mali, frappé ces derniers jours par plusieurs attaques djihadistes contre l'armée. Nous serons en Allemagne aussi. Le tribunal administratif de Berlin juge le refoulement de demandeurs d'asile à la frontière contraire à la loi. Et puis le premier ministre polonais Donald Tusk va demander la confiance au Parlement après la déroute de son candidat à la présidentielle. Analyse de cet électorat polonais extrêmement divisé dans notre dossier en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Des délégations russes et ukrainiennes se sont à nouveau rencontrées hier à Istanbul en Turquie. Réunion dans la perspective de mettre fin au conflit déclenché par l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022. Ces pourparlers intervenaient au lendemain d'une vaste attaque coordonnée de drones ukrainiens qui a détruit et endommagé plusieurs dizaines d'avions russes. Dans un tel contexte, qu'est-il ressorti de ces nouvelles négociations? Le point avec Anne Handlauer, notre correspondante en Turquie.
C'est peut-être le ministère turc des Affaires étrangères qui a le mieux résumé le bilan de la rencontre. Les discussions n'ont pas, je le cite, « produit de résultats négatifs ». Façon de dire que ces échanges ne changeront rien dans l'immédiat sur le terrain de la guerre. Une avancée concrète toutefois sur le terrain humanitaire, Kiev et Moscou préparent un nouvel échange de prisonniers. Il doit concerner tous les prisonniers grièvement blessés ou âgés de moins de 25 ans. Les deux pays ont aussi accepté d'échanger les corps de 6000 soldats morts au combat dans chaque camp. La délégation ukrainienne a par ailleurs remis une liste de centaines d'enfants ukrainiens déplacés en Russie et dont elle demande le retour. Ce qui ressort clairement de ces pourparlers, c'est que les deux camps restent divisés à l'égard d'un cessez-le-feu. L'Ukraine veut un arrêt des combats d'au moins 30 jours et sans condition, comme un préalable aux négociations sur un accord de paix. La Russie dit vouloir discuter d'abord de sujets de fond, tels que le sort de certains territoires, mais se dit prête à des cessez-le-feu temporaires et localisés dans certaines régions. La partie ukrainienne a proposé une nouvelle rencontre d'ici la fin du mois, entre le 20 et le 30 juin. À Ankara, Anne Handlauer pour Radio Vatican.
Et le président turc a de nouveau proposé de réunir les deux parties à Istanbul et Ankara. La Turquie qui a enregistré cette nuit un séisme de magnitude de 5,8 au large de Marmari, au sud-ouest du pays. Au moins un mort recensé et 69 blessés. C'est une médiation qui se déroule, elle, loin des regards. Le conseiller diplomatique du gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que Bakou avait accueilli au moins 3 séries de négociations entre la Turquie et Israël, deux rivales aux intérêts divergents en Syrie, renforcés par la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier. Le secrétaire général de l'ONU appelle à une enquête indépendante à Gaza, où dimanche dernier, à l'aube, des tirs ont fait au moins 31 morts et près de 200 blessés près d'un centre de distribution d'aide alimentaire dans le gouvernorat de Rafah, au sud de l'enclave. Le point de distribution était sous la responsabilité de la Fondation humanitaire de Gaza, une société américaine de sécurité mandatée par Israël. Et puis ce mardi, la défense civile de Gaza annonce la mort d'au moins 15 nouvelles personnes toujours près de Rafah. L'armée israélienne, elle, fait état de 3 soldats morts au nord de la bande de Gaza. Direction la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou lance un appel solennel à la responsabilité de la classe politique congolaise, mettant en garde contre une balkanisation en marche du pays, avec deux provinces occupées par les rebelles de l'AFC M23 et une crise politique qui se cristallise. Dans un message vidéo diffusé hier sur les réseaux sociaux, l'opposant congolais a ciblé le chef de la rébellion, mais aussi l'ancien président Joseph Kabila et le président actuel Félix Tshisekedi, la correspondance à Kinshasa de Pascal Moulégois.
Martin Fayoulou estime que la balkanisation du pays est en marche et il faut l'arrêter. Il s'adresse directement à l'ex-président Joseph Kabila.
Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. Aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays.
Au chef des rebelles du M23 AFC, Corneille Nanga, Martin Fayoulou supplie, je cite, de cesser d'être complice de ceux qui tuent les Congolais car aucune ambition ne vaut les prix de la souffrance de tout un peuple. Des mots ont aussi été adressés au président Félix Tshisekedi.
Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle.
Le président n'a pas ignoré cette main tendue et s'est déclaré disponible à recevoir l'opposant, l'un de ses principaux challengers aux présidentielles de 2018 et 2023. Dans un communiqué, Félix Tshisekedi a salué, je cite, « les patriotismes et l'essence d'engagement pour la cohésion nationale affichée par M. Martin Fayoulou ». Fin de citation. Pascal Moulegua, Kinshasa, Radio Vatican.
Le Cameroun détrône le Burkina Faso au rang de la crise de déplacement de population la plus négligée au monde, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'ONG scandinave publie chaque année une liste des 10 crises les plus oubliées. Le Cameroun fait face donc à une triple crise depuis une décennie, avec des groupes armés dans le bassin du lac Tchad, des violences intercommunautaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'instabilité qui déborde de la République centrafricaine. En 2024, environ 3,4 millions de personnes avaient un besoin urgent d'assistance et de protection, révèle l'ONG. Également sur cette liste figure le Mali, en proie depuis des années aux violences de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Deux attaques importantes ont eu lieu ces deux derniers jours. Dimanche, le camp militaire de Boulkessi, au centre du pays, a été ciblé par des hommes armés. Au moins 30 soldats ont été tués, la correspondance régionale de Lamine Traoré.
Un week-end mouvementé pour l'armée malienne. Elle a annoncé que, contrairement aux informations faisant état de l'attaque de l'emprise de Boulkessi dans la région de Douenza, dimanche, les forces sur le terrain ont vigoureusement réagi à cette attaque avant de se replier. L'armée a reconnu que beaucoup d'hommes se sont battus, certains jusqu'à leur dernier souffle, dit-elle, pour défendre la nation malienne contre l'obscurantisme et la barbarie humaine. Ce lundi, les forces armées maliennes ont annoncé avoir déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp de Tombouctou, vers 10h heure locale. L'armée explique que les terroristes ont été vite mis en déroute par la promptitude de la réaction des hommes, avec un bilan provisoire de 13 terroristes neutralisés, de l'armement, des moyens roulants et effets divers récupérés. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
En Allemagne, revers juridique pour le gouvernement, le refoulement de demandeurs d'asile à la frontière du pays, comme le nouveau gouvernement le fait depuis 3 semaines, est jugé contraire à la loi. Décision rendue hier par un tribunal administratif à Berlin. C'est un coup dur pour le chancelier Friedrich Merz, qui avait promis des contrôles renforcés contre l'immigration illégale à Berlin. Delphine Nerbollier.
C'est un tribunal administratif berlinois qui a été saisi et qui a rendu ce lundi cette décision surprise. Au cœur du dossier, 3 Somaliens arrêtés le 9 mai par la police allemande en train de franchir de manière illégale la frontière avec la Pologne. Tous 3 ont été refoulés dans ce pays malgré leur demande d'asile. Cette mesure très polémique est appliquée en Allemagne depuis 1 mois, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement de Friedrich Merz. Or voilà, cette pratique de refoulement est jugée illégale et contraire au droit européen. Toute demande d'asile doit être prise en compte par les autorités du pays, dans le cas l'Allemagne, et cela même si les migrants sont entrés dans l'espace européen via un autre pays, dans le cas présent, la Pologne. Pour le tribunal, cette décision doit faire jurisprudence et s'appliquer à toutes les frontières allemandes où les contrôles de police sont renforcés depuis 1 mois. Pour le gouvernement, au contraire, pas question de céder. Cette décision de justice ne concernerait que les 3 Somaliens en question. Le chancelier Merz compte bien poursuivre les refoulements à ses frontières comme il l'avait promis pendant la campagne électorale. Le bras de fer juridique devrait donc se poursuivre. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Le président français Emmanuel Macron est attendu cet après-midi à Rome pour une réunion avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, suivie d'un dîner de travail, un signe d'apaisement selon la presse italienne après des mois de tensions entre les deux dirigeants. Les guerres en cours en Ukraine et au Proche-Orient devraient être à l'ordre du jour, ainsi que les relations franco-italiennes. Retour sur l'élection présidentielle en Pologne. C'est le candidat soutenu par le parti Droit et Justice, Karol Nawrocki, qui l'a emporté d'une très courte tête face à son rival pro-européen Rafał Trzaskowski. Deux visions du pays qui s'affrontent, l'une souverainiste et nationaliste, l'autre pro-européenne. Cette courte victoire est un revers majeur pour le gouvernement libéral mené par le Premier ministre Donald Tusk depuis 2023. Celui-ci espérait une victoire du candidat pro-UE pour enfin pouvoir mettre en place des réformes jusqu'ici bloquées par le président nationaliste sortant. Mais Donald Tusk a promis de poursuivre sa gouvernance du pays et compte demander prochainement un vote de confiance au Parlement. Ce scrutin serré témoigne de la polarisation de l'électorat polonais que nous décrypte Jérôme Herto, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine.
Il faut bien voir qu'il traduit la diversité sociologique, géographique de la Pologne, de la population polonaise. Les électeurs de Trzaskowski se recoupent plutôt dans les grandes villes, par exemple dans les villes de plus de 500 000 habitants. Il a fait plus de 60% des voix, tandis que les électeurs de Nawrocki se recrutent davantage dans les communes rurales, où là encore, Nawrocki fait le plein des voix. Hein. Il y a de très très grosses marges, très très grosses différences entre les deux candidats en fonction du lieu et du type socio-économique, du statut en fait, de la commune, que ce soit urbaine ou rurale. Et on retrouve des différences aussi significatives, même si elles sont moindres, du point de vue du genre et de l'âge. Par exemple, les femmes ont voté davantage pour Trzaskowski, qui a un discours peut-être plus progressiste en faveur d'une libéralisation ou d'un assouplissement de la loi sur l'avortement, tandis que Nawrocki a plutôt bénéficié du soutien des hommes. Et les jeunes ont aussi plutôt favorisé Nawrocki que Trzaskowski.
Les jeunes se sont pour la plupart ralliés lors du premier tour autour du candidat d'extrême droite Mentzen. Quel rôle ce parti a pu jouer dans le deuxième tour ?
Compte tenu du caractère très mince de la différence entre les deux, on peut supposer que le rôle a été majeur. Et alors ce rôle, il s'est matérialisé par une attitude évidemment très stratégique et plutôt en fait efficace de Mentzen au cours de la campagne de second tour, puisque plutôt que de prendre position pour l'un ou pour l'autre, en fait, il a vraiment cherché à jouer le rôle d'arbitre. Il a proposé aux deux candidats de signer une déclaration en 8 points, c'est 8 engagements, et Nawrocki a décidé de soutenir les yeux fermés les 8 points de Mentzen. Trzaskowski a accepté de le rencontrer. Ils ont discuté, mais évidemment, il n'a pas soutenu l'ensemble des points de Mentzen. Et en fait, d'une certaine manière, il a été en quelque sorte faiseur de roi, Mentzen, au cours de cette campagne électorale.
Le Premier ministre Donald Tusk devra continuer à gouverner dans un régime de cohabitation. Quels peuvent être les risques d'un exécutif à deux têtes ?
Certes, que Nawrocki va bénéficier de sa légitimité de nouvel élu. Pour la coalition au pouvoir, ça risque de la mettre dans une position assez difficile, voire pourquoi pas la faire entrer dans une crise majeure, parce que le discours du pouvoir depuis 2 ans a été de dire « quand nous aurons gagné l'élection présidentielle, nous pourrons mettre enfin en application les réformes, nous pourrons les adopter, nous pourrons enfin rétablir l'état de droit ». Bon, en fait, ça n'est pas advenu, donc ça risque de compliquer la tâche du gouvernement. Ça lui donne assez peu de perspectives, en quelque sorte. Donc là, on entre dans une paralysie structurelle du gouvernement polonais.
La Pologne a un rôle diplomatique et logistique crucial dans la guerre en Ukraine. Quelle est la position de Karol Nawrocki sur le dossier ukrainien ?
Le président, il a un pouvoir de blocage. Il a un pouvoir de blocage grâce à son veto présidentiel. Mais là, le président nouvellement élu, il est favorable au soutien à l'Ukraine, mais sans doute plus sceptique. Il est favorable à ce que la Pologne se militarise davantage, mais il est clairement opposé à ce qu'il y ait des troupes polonaises en Ukraine. Mais c'est aussi le cas, j'allais dire, de Donald Tusk. Du point de vue de la politique étrangère de la Pologne et de son implication dans la guerre en Ukraine, ça ne va pas faire considérablement évoluer les choses. Mais disons que l'enthousiasme pro-européen favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, tout ça, cet enthousiasme est un peu terni par cette élection, c'est évident.
Donald Tusk, donc le Premier ministre qui a promis de poursuivre sa gouvernance du pays et qui a annoncé lundi demander prochainement un vote de confiance au Parlement. C'est ce que nous a expliqué Jérôme Herto, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, également auteur de Pensées captives aux éditions Codex, un livre sur la répression des libertés académiques en Europe centrale et orientale. Un entretien à réécouter en podcast sur notre site internet et sur Spotify. « C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité en langue française concernant le pape, le Vatican, l'Église et le monde revient à 13h, heure de Rome. D'ici là, un site à vous conseiller, www.vaticannews.va. Belle matinée à toutes et à tous.